Bonjour tout le monde. Un très bon début de semaine à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes reposés un petit peu en fin de semaine, que vous avez pu aller jouer dehors dans cette belle neige blanche immaculée. Ça nous a fait du bien. Les températures étaient, somme toute, plutôt douces. Ça va se rafraîchir pas mal au cours des prochaines heures. Je vous parle pas de température ce matin. Je vais vous parler quand même de confinement parce que c'est vrai que le couvre-feu, ben, ça fait une semaine là, qu'on le vit. Et c'est la question que je vous pose, entrée de jeu. Je voudrais savoir comment ça se passe pour vous. Comment le vivez-vous, ce couvre-feu? C'est quand même une mesure importante qui vient de nous être imposée là, depuis les derniers jours. Et j'ai envie de vous faire réentendre d'ailleurs la façon dont le premier ministre du Québec, François Legault, nous l'avait présenté, ce couvre-feu, comme mesure qui était nécessaire, une mesure extrême peut-être, mais on était un peu rendu là parce qu'il y avait eu un certain comportement. Et il nous expliquait, François Legault, le mercredi 6 janvier dernier, pour quelles raisons il avait été obligé de prendre cette mesure.
Ça s'est passé beaucoup dans les maisons. Donc, il y a beaucoup de gens, des personnes plus âgées, des personnes plus vulnérables, qui ont été contaminées dans leur maison, puis se sont retrouvées à l'hôpital. Face à ce constat, on est obligé aujourd'hui d'annoncer une espèce de traitement choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites dans les maisons. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 heures le soir à 5 heures le matin.
Et c'est ce que nous vivons, confinement et couvre-feu. Et on va se demander ensemble ce matin quels sont les effets de ce couvre-feu et de ce confinement. Confinement partiel, j'aurais envie de dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont essentiels et donc qui ont ce permis de circuler. Il y a aussi beaucoup de gens quand même à qui on permet de faire plein de choses. Donc, confinement, oui. Disons que c'est surtout vrai après 20 heures. Et là, c'est là qui est étonnant, c'est qu'il y a malgré tout des gens qui circulent le soir, après 20 heures. Étonnamment, il y a quand même malgré tout une circulation. Je ne peux pas croire que c'est toutes des essentiels qui roulent le soir après 20 heures. En tout cas, vous me direz si vous en voyez. Je veux surtout que vous me disiez comment vous le vivez et comment vous vous organisez. Est-ce que vous faites des choses que vous auriez faites après 20 heures? Est-ce que vous les faites plus tôt? Il y a même des gens là, qui me disent que, puis Paul en parlait il y a quelques minutes avec vous, là, qui avaient été nombreux à l'appeler, il y a même des gens qui remarquent que leurs voisins s'invitent, ils invitent la visite. Hein? Mais François Legault nous l'a dit l'autre jour, on vient de le entendre, ça se passait beaucoup dans les maisons, on voulait réduire les visites le soir. Mais si les gens se reçoivent plus tôt, est-ce que l'effet finalement va être ressenti dans les prochains jours en termes de baisse là, des hospitalisations et surtout baisse des cas? C'est ça là, qu'il faut essayer de mesurer. Est-ce que les gens s'organisent? Il y a des gens qui sont fins finaux. Ils savent comment ça marche pour court-circuiter le système. On va en discuter d'abord. Je vous donne nos numéros 514-790-9850 pour me joindre dans la grande région de Montréal. Et un peu partout, bien, vous faites le 1-866-790-9850. Elle est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. C'est la docteure Christine Groulx. Bonjour.
Bonjour, Madame Maréchal.
Comment le vivez-vous, docteur Groulx, ce couvre-feu, vous? Parce que on dit que ça nous sape le moral. Et je lisais le papier que vous avez écrit hier dans le Journal de Québec où vous dites, bon, ça fait maintenant plus de 300 jours que la COVID nous a profondément chamboulé le quotidien. C'est pas évident, c'est un marathon qui ne cesse de s'allonger. Évidemment, bon, on cherche notre deuxième souffle, puis vous dites on a du mal à le trouver. Comment vous arrivez, vous, à passer à travers ce confinement et ce couvre-feu nouvellement imposé?
Ben écoutez, j'essaie de mettre en pratique tous les conseils que j'ai donnés depuis le début de la pandémie, puis en comprenant très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que faut bien comprendre que, dans le fond, on avait beaucoup d'énergie au printemps dernier, pensant que ça allait durer pas trop longtemps, puis on était tous, nos pendules étaient pas mal toutes à la même heure. Ce qui a changé la donne, en fait, c'est après l'été, parce que la rémission, la récréation a été de courte durée, et la fatigue psychologique qu'on a accumulée a continué à s'accumuler, puis en allant vers l'hiver, en allant vers de plus en plus de restrictions. Alors, c'est sûr que, bon, pour moi, personnellement, je vous dirais que j'ai une situation assez qui me facilite la vie, mais je pense que c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour une majorité de gens, puis j'insiste sur le fait que c'est normal de trouver ça difficile. Faut pas se sentir coupable ou faut pas avoir honte de trouver ça difficile. C'est tout à fait normal comme réaction. C'est la situation qui est tout à fait exceptionnelle. Puis on a été assez gâtés au Québec de ne pas vivre de catastrophes comme ça, en tout cas de notre vécu, là. Tu sais, de notre vécu collectif. Alors, je vous dirais que c'est sûr que les gens commencent à être essoufflés. Maintenant, c'est sûr que le couvre-feu à 8 heures, je vous dirais que c'est venu ajouter des éléments de frustration à beaucoup de gens, particulièrement aux gens qui font des efforts et qui se sont privés, par exemple, justement, de voir leur famille ou de voir leurs amis à Noël, de voir leurs enfants. Tu sais, à un moment donné, quand tu fais ça, il faut que ça aille un sens. Et pour que ça aille un sens, il faut que la situation aille mieux. Alors, quand ça ne va pas mieux et qu'on va de restriction en restriction, ben ça peut devenir difficile. Puis, je vous dirais que c'est peut-être plus difficile aussi d'être privé de cette liberté-là pour les gens à qui ça demande une organisation accrue. Parce que c'est évident que ce qu'on fait pas après 8 heures le soir, on va le faire avant. Mais tu sais, il y a des gens, par exemple, qui sont en télétravail toute la journée, qui ont des enfants à la maison, ou que les enfants reviennent de l'école, puis pour qui c'est plus difficile de s'organiser. Alors, il y a différents cas de figure, mais c'est sûr que c'est un stress supplémentaire, c'est une demande d'adaptation accrue, c'est une demande d'organisation accrue, et ça prive quand même beaucoup de gens, là, je vous dirais, d'une liberté, dont celle d'aller prendre une marche dehors ou d'être capable d'aller prendre l'air quand on sent, et ça faisait partie des recommandations qu'on faisait, quand on sent que la soupape, que la soucoupe est un petit peu trop pleine, je vous dirais.
Justement, la fameuse marche dehors qui était un exutoire pour beaucoup de Québécois avant ce couvre-feu, là, on peut plus le faire, à moins d'avoir un chien. D'où tous ceux qui ont fait des blagues là-dessus ou qui se sont rués sur un animal de compagnie soudainement pour pouvoir bénéficier de cette exemption. Est-ce que vous trouvez pas, docteur Christine Groulx, qu'on pousse un peu le bouchon, là, justement, en ayant interdit les marches à l'extérieur, sauf avec animal de compagnie? Le fait de peut-être slacker là-dessus, ça nous donnerait pas un petit peu d'âge? Sincèrement, le soir, c'est considérant que, tu sais, si on dit, là, les enfants du secondaire, les jeunes du secondaire reprennent le chemin de l'école, on a beaucoup dit que c'était important, puis on va en parler ensemble, vous et moi, là, mais puis c'est sans doute très vrai, là, que les ados ont besoin de se voir, comme tout le monde aurait besoin de reprendre une certaine routine, mais de là à dire aux gens, sortez pas après 20 heures, aller pas dehors prendre une marche, on comprend moins ça, il me semble. On pourrait redonner ça peut-être aux Québécois, non?
Bien, en fait, je ne peux pas porter un jugement sur la décision qui a été prise, mais ma compréhension,
On pourrait.
Mais ma compréhension, puis je pense que c'est honnêtement, c'est ça la donne, c'est que c'est pas la marche dehors qui pose problème. C'est le fait de se visiter les uns les autres. Et c'est ça qui est visé par la mesure. Et on dit bien, on a bien dit, hein, j'ai bien entendu le Dr Arruda dire, écoutez, vous n'avez pas d'études scientifiques qui vont démontrer que le couvre-feu seul va donner des résultats. En fait, ça vient avec un ensemble de mesures, puis vient avec le fait de pas pouvoir sortir après 8 heures, ben le fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui en visitent d'autres pour souper ou de jeunes qui se rencontrent. Et c'est ça qui était visé. Malheureusement, ça prive une majorité de gens probablement très compliants aux mesures sanitaires du peu de liberté qui reste, effectivement.
Tu sais, okay, mais pourquoi, moi j'essaie de comprendre pourquoi on permet aux gens qui ont un animal de compagnie de sortir, mais que les autres ne peuvent pas sortir?
Ben, en fait, et selon ma compréhension, il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver dehors. Il y a les travailleurs essentiels, il y a ceux qui vont reconduire un enfant à un cours en présence, par exemple, ou ceux qui vont conduire un enfant chez un autre parent. Il y a ceux qui vont recevoir un service de santé également, ou qui vont qui se rendent à un cours qui se passe pas en télévirtuel, et ceux qui ont un chien qui peuvent marcher dans un rayon d'un kilomètre. On peut être dehors sur son terrain. Je pense qu'on ne peut pas aller ou revenir de quelque part qui est le fruit d'une rencontre. Mmh. Mais dans le contexte d'une mesure comme ça, faut toujours se demander, tu sais, comme citoyen, on est en mesure de se demander, est-ce que la mesure est nécessaire? Est-ce qu'elle va être efficace? Est-ce qu'il y avait des alternatives? Mmh. C'est un peu comme ça qu'il faut se poser la question. Je suis convaincue que les questions se sont posées chez nos décideurs, mais parce que est-ce que c'est nécessaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire qui pourrait donner le même résultat? Puis est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce que cette mesure-là va être efficace? Parce que s'il fallait qu'elle ne le soit pas, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir encore plus de grogne dans le contexte où les gens sont fatigués. Et est-ce qu'il y aurait eu des alternatives à ça? Évidemment, je n'ai pas toutes ces réponses, mais je pense que c'est légitime que les gens se la posent, la question. D'autant qu'on dit depuis le début, jouez dehors, sortez dehors, allez dépenser de l'énergie dehors, puis je pense que, parce que j'ai entendu le premier ministre dire, ben écoutez, vous le ferez à 4 heures l'après-midi, mais c'est pas possible pour tout le monde mm-hmm. de le faire à 4 heures l'après-midi. Donc, c'est sûr que c'est une liberté de moins. Je le répète, c'était peu prévisible, je pense, d'en arriver à une mesure comme ça pour les gens. Ce qui est difficile aussi, c'est que on sait jamais trop à quel moment le terme de cette mesure-là va arriver. On a une date, mais on sait pas trop si ça va vraiment être la date finale.
8 février, là.
Exactement. Donc, c'est sûr que ça prive les gens des libertés qui restent. Puis actuellement, ben les restrictions se sont accumulées. Alors, je vous dirais que ça rend les gens anxieux. Les gens le sont de plus en plus. Et les éléments dépressifs, ben évidemment, ils vont pas nécessairement en se menuisant actuellement. Donc, je le répète, tu sais, je pense qu'au niveau de la santé mentale de la population, on vit aussi une situation que j'appellerais une situation de crise importante et dont il faut s'occuper, puis il faut que les services soient au rendez-vous. Puis je pense que faut que notre gouvernement déploie rapidement une offre d'aide multiple, puis chacun d'entre nous, ben on est aussi responsable de notre santé mentale comme de notre santé physique, alors il faut en prendre soin aussi.
Ouais. Vous restez avec nous. On est en compagnie de la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Puis j'aime bien, Christine Groulx, comment vous posez le problème par rapport au couvre-feu. Est-ce qu'il était nécessaire? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il y avait une autre alternative qu'on aurait eu les moyens de mettre en place? C'est toutes ces questions-là qui se posent. On les pose, puis finalement, poser la question, c'est quasiment y répondre. Est-ce que je comprends là, que le couvre-feu seul, non. Le couvre-feu avec toutes les autres mesures, sans doute aura-t-il un impact. Mais là, je m'adresse aux auditeurs. Quel impact ce couvre-feu a-t-il dans votre vie? Comment vous organisez-vous depuis une semaine? Qu'est-ce que vous avez changé là, dans votre routine, dans votre organisation au niveau des horaires? Parce que de 20 heures le soir à 5 heures du matin, normalement, tout ce qui n'est pas essentiel, Mme Groulx nous a listé un peu les exemptions, tout le monde devrait être à la maison. Donc, qu'est-ce que ça fait sur votre morale aussi, sur votre santé mentale? Je vous écoute tout de suite après ceci. Une semaine à vivre avec un couvre-feu. Comment vous organisez-vous? 514-790-9850 pour nous joindre. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Isabelle, ça va bien?
Oui, ça va. Bon début de semaine à vous. Daniel, comment vous le vivez, ce couvre-feu, depuis une semaine? Est-ce que ça a changé des choses dans votre vie?
Ça n'a rien changé. Puis honnêtement, je comprends pas que tout le monde puisse dire que c'est draconien, que c'est un si gros effort que ça. Je peux comprendre que si on avait l'habitude de faire l'épicerie après 8 heures ou si on allait faire un jogging après 8 heures, bon, ça peut affecter un certain nombre de gens. Mm-hmm. Pour la plupart, ils sont à la maison, qui donnent les bains aux enfants, qui écoutent Netflix. Moi, je propose de dire que si on aurait respecté les règlements de ne pas voir des gens à la maison ou d'aller chez des personnes, on serait supposé être où après 8 heures anyway? Mis à part les deux exemples que je vous donne, alors que si on aurait eu un couvre-feu à l'automne, puis t'avais pas autant de monde qui trichait, puis qui devrait être chez eux après cette heure-là, de toute façon, à moins qu'ils sont partis courir ou quelque chose, là, mais si les gens avaient respecté ça, on serait pas pris aujourd'hui, puis on aurait tous vu nos familles Noël. Donc pour moi, ça a absolument rien changé. Depuis le début, je respecte de pas recevoir, de pas être chez personne. Donc à 8 heures, j'étais à la maison, comme je suis depuis l'automne.
Ouais. Merci, Daniel. Merci bien. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour Isabelle. Moi, dans mon cas, il n'y avait aucun problème. Depuis le début de la pandémie, j'étais un ancien employé du réseau de la santé, je suis peut-être plus sensibilisé. Mm-hmm. Je comprends les conséquences de la COVID. Fait que je me suis fait une routine de vie, c'est ça l'idéal, je pense. Le matin, je fais de la lecture de journaux, je déjeune tout ça. L'après-midi, je fais une petite activité dans la maison ou autre. Puis le soir, ben télévision, jusqu'à temps que je me couche, et ça recommence. Quand tu te fais une routine puis tu la suis, il n'y a pas de problème. Il y a du monde qui sont en isolement cellulaire 23 heures sur 24, puis ils suicident pas tout, puis ils reviennent pas tout fou. Puis le monde des forces armées dans les sous-marins, sous l'océan, ils font des missions de 3 mois dans un tube, il faut que tu tasses pour que l'autre passe à côté de toi, puis ils survivent aussi.
Mais ils l'ont choisi, par exemple, si je peux me permettre, Pierre, c'est un peu différent dans la mesure où si tu le choisis, ben tu vis avec, mais là, c'est une imposition, en plus de la part d'un gouvernement, on a tendance à pas aimer ça, le principe, comme tel. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent être dérangés, ne serait-ce que par ça, là.
Oui, ça, je peux comprendre ça, mais il faut regarder aussi la conséquence. C'est que là, on fait affaire à une pandémie qui est comme la première de l'ère moderne, aussi grosse que ça, en tout cas, pour le Québec puis les autres pays. Puis c'est une question de vie ou de mort ou de conséquences graves à long terme. Le COVID long, qu'on appelle. Mm. Mais ça, puis comme c'est quelque chose qu'on ne voit pas, si quelqu'un qui attrape le COVID avait des boutons dans le front ou qui le nez coulerait sans dire, on pourrait le voir, on pourrait se protéger. Mais là, ça peut être quelqu'un qui a l'air plus en forme que moi, qui a un tabarouette et il pète le feu, lui. Puis c'est lui qui va me le donner. Fait que dans ce cas-là, il faut se protéger. Puis le monde, ils sont pas capable de sortir dehors, c'est bien important après 8 heures. Mais sort à 7 heures, sort à 6 heures, si t'es capable, tu sais, il y a moyen de le faire. C'est pas parce que là, 8 heures, puis en plus, ce qui est plate au Québec, je remarque ça, il y en a beaucoup de ceux qui vont voyager, ceux qui se ramassent dans des hôtels en cachette, et le monde qui se réunissait d'une famille à l'autre pour fêter Noël pareil, puis il n'aurait jamais dû faire ça. Fait que dans le fond, si on est si mal pris que ça, c'est parce qu'il y a plein de petits Québécois et de Québécoises qui ont triché. Puis on paye le prix de ça. C'est ça qui est dommage. Puis c'est eux autres, il faudrait frapper plus fort. Ouais. Les reportages qu'on a vus hier dans les hôtels, ben les policiers devraient y aller, rentrer, puis regarder, puis donner une contravention. Mais il paraît qu'ils ont un problème de patte de contravention, ils n'ont pas assez tout le temps. Fait que tu sais, qu'on s'en sortira pas bien bien s'il y a du monde qui triche.
Il y en a du monde qui triche. C'est fou pareil, hein, quand même. C'est étonnant quand même qu'il y a plus de gens qu'on pense qui trichent ou qui sont tentés de le faire. Merci, Pierre. D'ailleurs, j'ai envie de me tourner vers la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec là-dessus. Christine Groulx, vous en pensez quoi de ces gens-là qui font plein d'affaires en cachette? Est-ce que c'est une réaction normale, vous direz, selon le contexte, ou c'est hors norme quand même, là?
C'est pas hors norme du tout, parce que la norme, c'est quelque chose de très vaste. Moi, ce que je vous dirais, c'est que, d'abord, la première chose que je dirais, tu sais, quand je dis on se demande est-ce que c'est nécessaire, efficace, y a-t-il des alternatives, c'est des questions légitimes qu'on peut se poser comme citoyen. Mm-hmm. Mais il faut quand même dire que il y a pas de dirigeants qui se sont pas posé la question. Je pense que nos dirigeants ont bien étudié la question, ils se la sont posée, ils en sont arrivés à cette conclusion-là. C'est juste que le rationnel nous a pas nécessairement été expliqué. Et ça, ça a des impacts sur notre compréhension de la situation puis sur notre perception de la situation. C'est bien évident que, comme travailleuse de la santé, moi-même, tu sais, faut quand même dire qu'on en arrive à un point où on pensait jamais arriver non plus, où on pourrait se retrouver à avoir une capacité à traiter limitée puis à faire des choix déchirants, puis c'est ça qu'on veut essayer de prévenir. Puis une fois ça dit, je pense que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a des gens qui vont se sentir extrêmement brimés, justement parce que ça change la routine de vie qui s'était établie. Puis il y a des gens pour qui, ben la routine, c'était déjà ça, d'être à la maison après 8 heures. Mais il faut pas penser que... Vous savez, je donne souvent l'exemple par les temps qui courent d'un marathon. C'est comme si on court tous un marathon, sauf qu'on ne sait pas à quel kilomètre il va finir, mais on n'avait pas le même entraînement de départ, on n'avait pas la même forme psychologique de départ pour courir ce marathon-là. On n'avait pas la même réserve d'énergie, puis on n'avait pas les mêmes souliers ou le même équipement. Alors, je pense qu'il faut faire attention aussi aux attributions de cause, c'est-à-dire que actuellement la colère monte beaucoup, puis on a tendance à s'accuser mutuellement, puis à dire que si on est rendu là, c'est à cause de telle et telle personne ou telle et telle personne. J'invite un petit peu les gens à la bienveillance, parce que toutes les personnes actuellement font ce qu'ils peuvent pour essayer de rester en santé, puis pour essayer de rester en santé mentale. Puis je vous dirais que quand il y a des divergences de comportement, c'est pas nécessairement parce qu'on partage pas les mêmes valeurs, c'est parce qu'on n'a pas la même compréhension de la situation, puis on n'a pas la même perception de la situation. Et c'est là où on diverge. Et même dans les restrictions par rapport à après 8 heures le soir, je suis pas sûre que tout le monde est bien informé de ce qu'on peut faire parce qu'il y a quand même plusieurs cas de figure où on peut sortir après 8 heures. Puis ça a été listé dans les journaux en fin de semaine. Donc, c'est important d'avoir cette information-là.
Oui, on a la responsabilité de se tenir au courant, là. C'est ce que
oui, tout à fait. Puis cela dit, on encore là, on n'est pas tous dans le même état psychologique. On réagit pas tous de la même manière à la restriction. Mais le fait de se faire une routine, c'est sûr que c'est très aidant. Faut que les soirées soient différentes des journées. Faut que les fins de semaine soient différentes des jours de semaine. Puis il faut rester occupé autant physiquement qu'intellectuellement. Faut s'amuser aussi. Donc, quotidiennement, puis ça, je le dis, c'est important, faut avoir du plaisir. Puis faut le trouver là où il est, quotidiennement.
Mais Christine Groulx, vous pensez pas aussi que cette frustration dont vous parlez, puis je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites, vous écrivez, on souffre tous en ce moment, pas forcément avec la même intensité ni de la même manière, puis c'est une raison supplémentaire pour être bienveillant. Vous avez tellement raison, il faut se le rappeler en boucle, ça. En même temps, c'est vrai que quand vous parlez de la colère qui gronde, là, qui augmente, la frustration là, qui fait rage en ce moment, puis on le sent bien sur les réseaux sociaux, là, c'est pas beau, là. C'est de moins en moins propre ce qui s'écrit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans, justement, une réaction épidermique à tous ces cas de tricherie, de cachette? Vous dites dans votre texte d'hier, avant de juger quelqu'un qui part en voyage, il faudrait peut-être se poser des questions. Bon, en même temps, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui suit les mesures ici, qui respecte le couvre-feu, pourquoi son voisin est parti dans un tout-inclus à Cuba puis fait la rumba. Et c'est, moi, je lis les commentaires de mes auditeurs et depuis plusieurs jours, pour pas dire des semaines, les gens disent il y a trop d'incohérences et c'est ça qui passe de moins en moins.
Oui, bien écoutez, il y a des familles qui se brisent actuellement. Il y a des amitiés de longue date qui se perdent parce que, justement, les gens sont en désaccord puis les gens se radicalisent. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que c'est normal de se radicaliser quand on a l'impression d'une part de n'avoir aucun contrôle sur la situation, puis d'autre part quand on a l'impression que il y a des injustices, puis parce que certaines personnes se comportent comme ça, on est tous punis. Donc c'est normal quand ça fait 10 mois là, tu sais, que de se radicaliser un petit peu, mais en même temps c'est pas nécessairement un signe qu'on va bien. Puis moi je ne fais qu'expliquer ce qui se passe dans le cerveau des gens puis au niveau du comportement humain. Mais quand on devient aussi sectaire que ça, qu'on perd la nuance, qu'on perd la capacité d'empathie, c'est parce que on va pas nécessairement bien. Puis actuellement les positions se radicalisent beaucoup. Donc on perd cette nuance-là, puis on a tendance à dire ben là tout ce qui se passe là c'est en raison de telle chose. En fait, les causes sont probablement multiples, hein? C'est-à-dire que la réalité est toujours un petit peu plus complexe des fois que la façon dont on la pressent. Mais cela dit, il y a une situation sanitaire qui est grave, qui est critique. Pour ces raisons-là, il faut qu'on fasse tous un effort collectif. Cet effort-là est plus demandant pour certaines personnes que pour d'autres. Et les gens se défendent comme ils peuvent. Mais comme je vous dis, quand les gens deviennent très en colère, très radicalisés, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont plus beaucoup de contrôle. Je pense qu'il faut vraiment essayer individuellement de faire la différence entre ce sur quoi on n'en a pas de contrôle puis ce sur quoi on en a. Mm-hmm. On n'a pas de contrôle sur le couvre-feu, mais on a du contrôle sur comment on va organiser nos soirées. Et c'est là où c'est important de ne pas rester accroché à une colère qui ne sera pas constructive nécessairement, parce que dans le fond, quand on est en colère contre quelqu'un ou contre quelque chose, non seulement ça ne change pas la situation, mais ça nous mine, nous. Alors que quand on se demande, bon ben, comment je vais construire pour avoir du plaisir dans mes soirées, après 6 heures, par exemple, ben là, on fait peut-être quelque chose de plus productif. Mais cela dit, c'est pas un exercice facile, puis c'est pas facile quand on est un petit peu au bout de sa corde.
Ouais. Aujourd'hui, retour en classe des jeunes du secondaire. On nous dit que c'est important pour leur santé mentale. Vous parliez d'une crise importante tout à l'heure en santé mentale à tous les âges. Pour les jeunes du secondaire qui reprennent donc la classe aujourd'hui avec, bon, un masque obligatoire, on va leur en donner deux au quotidien. C'était important, c'était nécessaire et il n'y avait pas de route alternative pour reprendre vos questions, Christine Groulx. C'était important qu'ils retournent en classe, les jeunes.
Ben encore là, d'un point de vue des apprentissages, d'un point de vue développemental, puis d'un point de vue de la socialisation, c'est sûr que ça a des bienfaits. Parce que vous pensez aux jeunes du secondaire, par exemple, qui peuvent pas se voir, qui peuvent pas voir leurs amis, qui peuvent pas voir leurs amoureux, leurs amoureuses, qui peuvent pas se voir après 8 heures, le fait de et qui sont anxieux par rapport à leur année scolaire, ça c'est tout un autre chapitre là que j'aborderai pas ici. Mais cela dit, quand vous regardez tout ça. Puis qui s'ennuient en plus, c'est-à-dire qui s'ennuient puis qui ne savent plus quoi faire de leur journée, ben oui, il y a certainement certains bienfaits à ce qu'ils puissent aller en classe, d'autant qu'il y a des mesures sanitaires qui se sont organisées de façon systémique dans les écoles, même si ça peut paraître un peu aberrant, tu sais, dans la mesure où il y a des mesures sanitaires qui se sont installées, puis où on sait que à tout niveau, sur le plan du développement puis sur leur plan de leur équilibre psychologique, c'est probablement, ça a probablement des bienfaits, puis ça en a définitivement au niveau de leur cursus puis de leurs apprentissages. Ben, on a un rationnel différent que si on pense juste à la propagation. Maintenant, faut aussi, puis encore là, moi, c'est une réflexion de citoyenne, mais faut penser qu'on les a fermés les écoles pendant plusieurs semaines, puis ça a pas diminué la pandémie. Donc, c'est peut-être pas le fait que les jeunes soient à l'école qui a été si problématique que les rencontres ou les personnes qui se visitaient, mais je suis pas capable, moi, de faire une attribution de causalité. J'ai pas la connaissance qu'il faut pour le faire, mais je suis en mesure de poser des questions, par exemple, puis de dire ben oui, pour les jeunes, pour leur développement, c'est clair que c'est mieux. Puis je vais vous dire, c'est peut-être mieux aussi pour les parents qui sont en télétravail à la maison et qui avaient aussi les enfants à temps plein à la maison, en télé-école, qui se voyaient en train de faire de la discipline. Parce qu'il faut quand même penser que les jeunes perdent leur motivation actuellement au niveau des apprentissages. Puis il faut quand même penser à leur santé mentale aussi. Un jeune adolescent, ça n'a pas le recul d'un adulte. Un jeune adolescent, ça n'a pas les besoins non plus sur le plan de la socialisation d'un adulte. Alors, tu sais, je pense qu'il faut considérer tous ces facteurs-là, puis les réponses sont jamais simples.
Tout à fait. Merci. En tout cas, vous avez été très encourageante tout de même, Christine Groulx, à nous dire que, bon, il y aura une lumière au bout du tunnel, c'est sûr, mais il faut qu'on s'adapte. Peut-être un truc pour les gens qui nous écoutent avant de vous laisser aller. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider, aider notre santé mentale?
Oui, ben garder la routine, trouver du plaisir quotidiennement, essayer aussi de regarder dans notre environnement, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui on peut ventiler, qui portera pas de jugement sur ce qu'on va lui dire, puis qui va garder nos confidences, et surtout accepter que on peut avoir des mauvaises journées, qu'on peut être moins productif certains jours, que c'est pas grave, et se rappeler que ça va avoir une fin, cette voilà. pandémie-là. Donc, et qu'en attendant, ben il faut faire tout ce qu'il faut pour être capable de prendre soin de la santé physique de la collectivité, mais aussi de notre santé mentale.
Merci beaucoup. Puis on retient votre mot bienveillance. C'est tellement un mot magnifique et un beau sentiment aussi à avoir à l'endroit des autres. Merci beaucoup, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. On parlait avec Christine Groulx. On va s'arrêter ici. Tout de suite après la pause, on enchaîne avec la docteure Nima Machouf et vos commentaires. Dites-moi comment vous vous organisez là, depuis une semaine qu'on vit avec ce couvre-feu imposé de 20h du soir à 5h du matin. 514-790-9850, 1-866 de l'extérieur, 1-866-790-9850.
Un couvre-feu.
La docteure Groulx nous disait, il faut trouver peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez ventiler. Il y a moi! Vous pouvez ventiler avec moi, les amis. C'est pour ça que je suis là le matin pour vous. On jase ensemble, puis on essaye de se tenir au courant un peu de comment ça va, comment ça s'organise. Et puis, c'est la question que je vous pose par rapport au couvre-feu. Une semaine qu'on vit ça. Comment vous organisez-vous? Suzanne, bonjour.
Bonjour.
Comment
moi, ça va bien. Vous?
Oui.
Ça
comment vous organisez-vous, okay. vous?
Ben moi, je m'organise très bien parce que quand j'ai pris ma retraite en 2018 du domaine hospitalier, depuis plus de 40 ans que je travaillais là, je me suis auto-confinée moi-même parce que je suis tombée retraitée. Donc, moi, c'est copier-coller, là. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Mm-hmm. La seule chose qui a changé, c'est de sortir quand je veux. Mais même à ça, ça me dérange pas. Parce que moi, je sortais juste le jour. Le soir, je sortais jamais.
Donc, vous, ça ne change pas grand-chose, finalement. Là.
Moi, ça ne change absolument rien. Ce que je trouve désolant, ouais. Comme je disais à votre chercheur.
Oui, vous lui disiez que vous trouvez que les gens ne prennent pas ça au sérieux.
Ben non, ils vivent un monde de licorne. Les autres, ils pensent que c'est une joke. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une farce. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est organisé par le gouvernement pour faire de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Microsoft qui a fait ça. Il y a beaucoup de gens... Les bloquistes, là, ceux qui complotistes, là, qui ouais. font des manifestations, ben c'est tous ces gens-là, là, sont moi, à un moment donné, j'avais dit à quelqu'un comme ça, moi, j'ai jamais vécu de pandémie de ma vie, j'ai 60 ans, j'en ai jamais vécu, mm-hmm. mais chose certaine, je suis certaine qu'en 2025, ça sera pas réglé. On va encore avoir des soubresauts de tout ça, ouais. soit économiquement ou n'importe quoi. Mais c'est sûr et certain que ça va être long. Puis il y a des gens qui vivent dans le monde de licorne qui me disent non, au printemps, tout est réglé. En 2021, là.
Ouais. Merci, Suzanne. Ouais. Merci
ça me fait
beaucoup.
Plaisir.
Puis pour ajouter à ce que Suzanne vient de nous dire, vous savez ce qui se passe cette semaine, c'est une semaine importante. Là. Il va y avoir la sermentation du nouveau président des États-Unis, Joe Biden. Et il y a déjà des manifestations pro-Trump là, qui ont lieu. C'est rien pour améliorer la situation chez nous, parce que tout ce qui s'appelle complotiste au Québec va certainement se gaver de ces images qu'on va retransmettre ici, de toutes ces manifestations, de tous ceux qui vont prendre la parole aux États-Unis, puis qui vont nous rappeler à quel point toute cette histoire du COVID est un gros complot. Fait que c'est sûr que ça va sans doute contribuer à renforcer la croyance que certains ont, là, sont convaincus d'avoir plus d'infos que les experts et les scientifiques et les médecins, même les médecins qui sont sur le terrain nous le disent. Mais pourtant, pour tous ceux qui n'y croient pas, il n'y a rien à faire. Il y a comme une espèce de mur. Puis j'ai l'impression parfois là, qu'on n'arrivera jamais à le percer, ce mur-là. Pour tous ceux qu'on appelle les complotistes, ils sont, ils vont le rester. Il va falloir vivre avec. On va justement parler de médecins qui a les deux mains dedans, rejoindre l'épidémiologiste Nima Machouf. Bonjour, docteur Machouf.
Bonjour, Madame Maréchal.
On parle du couvre-feu. Ça fait une semaine. Je demande aux gens ce matin de nous dire un peu comment ils s'organisent. On a parlé avec Christine Gros du fait que, bon, c'était peut-être pas... évidemment, on se demande si c'est nécessaire, si c'est bien efficace. Là, en ce moment, c'est difficile à mesurer parce que ça fait pas encore assez de temps que ce couvre-feu est en vigueur. On va peut-être le voir plus la semaine prochaine, le véritable impact. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous? Une semaine après, est-ce que ça vous paraît une mesure qui était nécessaire, Nima Machouf?
Je pense que c'est une mesure malheureuse, mais qui était nécessaire. Parce que quand ils ont décidé de mettre en place le couvre-feu, on était en haut de 2000-2500 cas, et même on a frôlé on a même dépassé le 3000 cas au Québec, de nouveaux cas au Québec, dans un système de avec un système de santé qui était presque au bord de la saturation, et 4 mois d'hiver qui sont en vue. Donc, il faut considérer tout ça en même temps pour voir est-ce que le système était capable, sans le couvre-feu, de maîtriser l'évolution de la COVID et de briser la chaîne de transmission. Mais avec les mesures qui étaient mises en place, on a vu que ça continuait à augmenter. Avec la nouvelle variante qui se propage encore plus, le danger était encore plus grand. Donc, je pense que c'était triste de voir qu'on soit rendu là, mais cette mesure pourrait nous aider grandement.
Oui, effectivement. Puis bon, ça va être difficile de déterminer tous les impacts du couvre-feu à court terme parce que, bon, vous l'avez dit, il y a plein d'autres mesures. En même temps, on voulait vraiment empêcher les gens de se faire des parties en soirée. Hein. C'est ça le but, puisque François Legault nous disait ça s'est beaucoup passé dans les maisons, les visites, les gens qui se sont rendus visite. Là, on voit qu'il y a quand même encore des gens qui apparemment semblent tricher, si on se fie aux commentaires de ceux qui sont autour. Qu'est-ce que vous comprenez de cette situation-là? De ce message passe? Est-ce qu'il est passé le message du couvre-feu et de son importance, d'après vous?
Je Je pense que oui. Il y a quelques jours, je me retrouvais, j'avais une urgence et je devais quitter la maison. Il était 11 heures le soir. Mm-hmm. Les rues sont désertes. Et dans mon quartier, normalement, 11 heures du soir, les rues ne sont pas du tout désertes. Alors, je pense que la mesure a fonctionné. Encore aujourd'hui, avec une semaine de recul, on ne peut pas dire mm-hmm. que la diminution de cas est reliée au couvre-feu. C'est encore trop tôt pour voir l'effet du couvre-feu. Mais pour maîtriser une infection qu'on ne comprend pas encore complètement, qu'on ne sait pas encore exactement comment il faut la prévenir, il faut mettre différents types de mesures. Et chacune de ces mesures-là a un effet restreint. Un certain effet. C'est comme les effets du fromage suisse, les interventions à fromage suisse dont on parle depuis quelque temps dans les médias. Et c'est exactement ça. Chaque mesure a un certain effet. Et chaque mesure est dessinée ou est proposée en fonction d'une certaine tranche de la population qui, chez cette tranche, pourrait avoir un effet important.
Ouais.
Alors, on verra si ça, ouais. si ça aurait aidé ou pas, mais ça peut pas nuire parce que la mesure va nécessairement réduire nos contacts. Donc, on réduit les contacts, on réduit la transmission. Elle ne peut pas nuire sur le plan de la COVID. Sur d'autres plans, oui, il faut faire attention, mais sur le plan de la COVID, elle ne pourrait pas nuire.
Docteur Machaud, vous restez avec nous. Au retour, je vais vous lire le courriel que Christian vient de m'envoyer. C'est un enseignant. Il dit qu'il vit d'énormes incohérences entre la situation au travail, donc à l'école, et à la maison, tout de suite après ceci. Je suis en compagnie de l'épidémiologiste Nima Machouf. Elle est également chargée de cours à l'École de santé publique à l'Université de Montréal. Je vous disais, Dr Machouf, que Christian venait de m'envoyer un courriel. Il est enseignant. Il dit « Je vis d'énormes incohérences entre la situation au travail, donc à l'école, et à la maison. Au travail, je peux côtoyer mes collègues, professeurs, échanger, dîner en leur présence à 2 mètres, pénétrer dans toutes les bulles classes durant toutes mes surveillances de corridor. Je fréquente 3 groupes de 30 élèves, donc leur bulle maison en même temps. » Techniquement, dès que je suis sortie de mon lieu de travail, l'école, je ne peux pas souper avec des amis, je ne peux pas pénétrer aucune bulle dans mon entourage. Voyez pourquoi on est confus et embrouillé, me dit Christian. Le gouvernement veut nous faire travailler sans offrir aucun bonbon. Les gyms, les bibliothèques sont fermées. Donc, bref, au travail, les restrictions sont moindres que celles qu'on vit en dehors. Il dit, c'est dur à suivre. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion?
Je suis d'accord avec lui. Il y a beaucoup de confusion dans les normes. Surtout au niveau dans le secteur scolaire où les gens sont ensemble pendant de nombreuses heures. Et c'est différent en plus des lieux de travail, des bureaux où il y a peu de personnes dans chaque pièce, mais dans une classe, il y a une trentaine de personnes qui se fréquentent pendant à peu près 6 heures durant la journée. Oui, c'est incohérent quand on demande pas nécessairement à tout le monde de porter le masque, et surtout quand on ne veut pas prendre au sérieux la transmission par aérosol, et on ne prend pas de mesures sérieuses pour le contrer. Alors, si on impose des mesures extrêmes, comme le couvre-feu, il faut qu'on ait essayé les autres mesures a priori. On ne peut pas arriver avec une mesure extrême quelque part, et par ailleurs, laisser des échappements, laisser la chaîne de transmission continuer à se former, comme ce que monsieur vient de mentionner dans son école. Ce n'est pas cohérent, et je comprends tout à fait pourquoi les gens sont confus un peu. Il faut que le message du gouvernement soit clair, mais tant qu'il n'a pas, qu'il résiste pour accepter le phénomène de la transmission par aérosol. Parce que s'il l'accepte, il va le mettre dans son message de prévention et les gens vont mieux comprendre pourquoi il ne faut pas qu'on aille chez les autres. parce que quand on partage la même bulle, le même air, s'il y a quelqu'un qui est infecté là-dedans, on va pouvoir s'infecter et chacun on retourne dans nos maisons, dans nos bulles, dans nos lieux de travail et on propage le virus.
Mais justement, regardez, il y a une situation là aujourd'hui, les jeunes secondaires reviennent à l'école. On sait, en ce qui concerne la ventilation dans les classes des écoles au Québec, le gouvernement a décidé de ne pas installer des systèmes de purification d'air, de purificateurs d'air. Il l'a pas empêché. Les écoles peuvent le faire si elles veulent, mais c'est pas forcément recommandé non plus. Le gouvernement dit que
c'est pas cohérent.
Ouais,
c'est donc... pas cohérent, tandis qu'Ontario l'ont adopté. Ontario a dit OK, on investit dans le système de l'aération des écoles, mm-hmm. on met des mesures en place. Ici, au Québec, nos mesures sont très vagues. Ouvrez les fenêtres, dites-nous ce que vous avez fait, essayez de contrôler la qualité de l'air sans nécessairement de donner les moyens et de dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut mesurer la qualité de l'air et à quelle fréquence et avec quel outil. Donc, le gouvernement ici au Québec ne l'a pas pris la question au sérieux. Les élèves au primaire, on leur demande de porter le masque, même les en bas de 10 ans, porter le masque dans les corridors, mais pas en classe. C'est en classe qu'ils passent des heures ensemble, pas dans le corridor quand ils se frôlent à 3 secondes chacun.
La Donc, porte ouverte ou la fenêtre ouverte de temps en temps dans la classe, est-ce que vous pensez que ça va être suffisant, Nima Machou?
C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et puis le gouvernement, les éléments qu'il nous donne ne sont pas cohérents. Il dit les purificateurs d'air, ça peut créer du bruit, ça va déconcentrer les élèves. Mais garder les fenêtres ouvertes ou le corridor, la porte ouverte, le bruit ne les dérange plus tout d'un coup. C'est juste un peu comme le masque. Au début, étant donné qu'ils avaient dit que le masque n'est pas bon, donc ils avaient de la misère à embarquer sur le fait qu'il faut l'inclure dans notre arsenal de lutte contre la COVID. Donc ils ont eu de la misère avec ça. Et j'ai l'impression qu'avec la transmission par aérosol, ils font exactement la même chose. Étant donné qu'au début ils ont dit que c'était pas important, maintenant ils prennent ça un peu personnel. Ils ont de la misère à l'accepter, à l'adopter. Pourtant les scientifiques le disent, les physiciens, les dynamiciens des aérosols, les hygiénistes des milieux nous avertissent qu'il faut s'en préoccuper.
Vous parlez de l'Ontario, Nima Machouf. Ça vient de sortir à l'instant. L'Ontario annonce qu'ils veulent vacciner à peu près tous les citoyens pour le début août prochain, donc au cœur de l'été. Là, début août, l'Ontario estime qu'ils vont être en mesure d'avoir vacciné tout le monde. Le premier ministre Trudeau parlait beaucoup plus de septembre. Au Québec, quand on regarde ça, on se dit, bon, surtout avec le fait que Pfizer... et des problèmes là, à approvisionner tout le monde. On sait qu'il y aura à peu près au moins un mois de retard là, sur les livraisons de doses de vaccins. Est-ce que ça vous paraît réaliste que l'Ontario annonce là, qu'ils veulent vacciner tous les Ontariens pour le début août?
S'ils mettent les moyens, ils vont être capables de le faire, à condition d'avoir le vaccin.
Mais ça prend des doses de vaccin, là.
Ouais. C'est ça, ça prend le vaccin. Mais il y a Moderna, le Moderna va... commencer son entrée sur le marché québécois. Il y a AstraZeneca qui est en voie d'être approuvé. Il y a d'autres vaccins aussi qui s'en viennent. Il n'y a pas juste le vaccin de Pfizer. Le vaccin de Pfizer, c'est le plus difficile, en fait. Ils ont fait une énorme opération de marketing au début pour qu'il arrive le premier sur le marché, pour que les gens commencent à l'utiliser. C'est un vaccin qui est très efficace. Bravo. Mais c'est le plus compliqué sur le plan de la logistique et c'est le plus cher aussi sur le marché. Donc, pour des opérations de vaccination à grande échelle de toute la population, c'est absolument pas le vaccin idéal, mais c'est ce qu'on a pour l'instant, tout le monde le veut. Alors, si on a les vaccins, peu importe si c'est Pfizer, AstraZeneca, Moderna ou les autres vaccins qui vont être approuvés bientôt, si on a l'approvisionnement, on serait capable parce que le Canada a commandé 8 fois plus de vaccins que sa population. Donc, normalement, on devrait avoir des doses. Est-ce qu'on va les avoir à temps? Ça, c'est une autre question. Si on met les moyens et le personnel nécessaires, on peut rapidement vacciner une population. Mais ici, pour l'instant, nous, au Québec, on est très lent là-dessus.
Merci beaucoup de toutes ces infos. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Nima Machouf, épidémiologiste chargée de cours à l'École de santé publique à l'Université de Montréal. On va s'arrêter ici. On aura l'occasion de reparler tout ça, bien sûr, au cours des prochains jours. Je vais vous parler, après la pause, de PCU, parce que vous avez peut-être commencé à recevoir vos relevés d'impôts. Je vais vous demander si vous avez l'argent de côté pour payer l'impôt sur la PCU. À tout de suite, tout le monde.